Je voudrais lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, deux Rois 6, verset 8. Or le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël et eut un conseil avec ses serviteurs disant « En tel et tel lieu sera mon camp ». Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël disant « Garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus ». Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y fut gardé. Cela eut lieu non pas une fois, ni deux fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela, et il appela ses serviteurs et leur dit « Ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël ?» Et l'un de ses serviteurs lui dit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. » Et il dit, « Allez, et voyez où il est, et j'enverrai, et je le prendrai. » Et on lui rapporta, disant, « Le voilà à Dothan. » Et il envoya des chevaux et des chars et de grandes forces, et ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Et il pria l'Éternel et dit, « Je te prie, « frappe cette nation de cécité. » Et il les frappa de cécité selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Venez après moi et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les mena à Samarie. Et il arriva quand il fut rentré à Samarie qu'Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux à ces hommes afin qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent, et voici, ils étaient au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël dit à Élisée, quand il les vit, « Frapperai-je, mon père ?» Et il dit, « Tu ne frapperas pas. Ceux que tu aurais fait captifs avec ton épée et ton arc, les frapperais-tu ? Mets du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur seigneur. » Et il leur prépara un grand festin, ils mangèrent et burent, et il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur seigneur, et les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël. On voit à travers ce récit, il y a deux choses, si on peut dire, qui ressortent très nettement. Ce côté de voir ou de ne pas voir, ce côté de connaître, savoir ou ne pas connaître. Et si on reprend la situation dans les chapitres qui précèdent, dans les chapitres qui suivent, dans cette période où les dix tribus d'Israël, séparées de Juda et de Benjamin, avançaient avec des rois qui se suivaient, des rois terribles comme Akab, des rois plus où l'idolâtrie ou la manifestation, l'opposition à Dieu est moins marquée comme ce roi du moment. Je ne me souviens plus son nom là maintenant, on doit l'avoir un peu plus loin ou un peu avant, mais là il m'échappe. On a toujours d'une part cet éloignement de Dieu plus ou moins marqué. Il n'y a jamais eu, parmi les 10 tribus, de vrai retour des rois ou du peuple et des peuples et du peuple. Il y a toujours eu un résidu qui a subsisté, plus ou moins visible, plus visible dans le temps d'Élisée que dans le temps d'Élie, mais jamais de retour collectif. Et alors il y a cet ennemi permanent, le Syrien, tout au long de ce temps, qui, plus tard, quand le jugement de Dieu va s'apesantir, sera remplacé par l'Assyrien, puis par Babylone. Là, c'est une espèce de guerre permanente, d'escarmouche, de conflits de frontières, de disputes autour de villes, que tantôt l'un prend, tantôt l'autre reprend, d'accords qui ne tiennent pas ou qui tiennent un temps et qui s'écroulent. Et on est dans le début, dans une période où il nous est dit, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Dieu permet cela pour parler au cœur et aux consciences. Et à travers ces conflits, on a l'histoire de Naaman qui précède, qui donne un autre aspect, un autre éclairage, quand Naaman, le chef de l'armée ennemie, est touché par la grâce de Dieu. Là, on est dans cette situation d'escarmouche et de conflit, où chacun organise un peu des choses contre l'autre, avec cette chose mystérieuse. Tout ce qu'organise le roi de Syrie échoue parce que Élisée est au courant. Nous savons comment Élisée est prophète, Dieu lui parle. Dieu l'utilise comme moyen pour parler au roi d'Israël, au peuple d'Israël, et par cet intermédiaire-là aussi, même si ce n'est pas l'objectif premier, au roi de Syrie. Donc à chaque tentative, la tentative est déjouée. Le roi d'Israël voit cette confirmation, ce que Élisée lui a transmis se vérifie, et le roi de Syrie en arrive à penser qu'il a un traître au milieu de ses chefs, des gens qui sont autour de lui. Avec cette déclaration surprenante, au verset 12, l'un de ses serviteurs lui dit « Personne n'est un traître au roi mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète qui est en Israël déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Quand on considère cette parole, un des serviteurs du roi de Syrie qui lui dit cela. D'où ce serviteur sait-il cela? La parole ne le dit pas. Mais je disais avant, nous avons le récit de Naaman qui précède. Nous savons qu'un Naaman connaissait Élisée, bien sûr, mais surtout l'Éternel. Il y avait donc parmi les Syriens au moins une personne, peut-être d'autres, qui connaissaient l'Éternel et qui reconnaissaient en Élisée un prophète de l'Éternel. Et comme prophète de l'Éternel, il avait la pensée de l'Éternel. Il connaissait la pensée de l'Éternel. Il pouvait la transmettre au roi. Et il pouvait transmettre la pensée de l'Éternel en bien pour son peuple. Donc tout ce qui était à même de protéger ce peuple, de garder des attaques de l'ennemi. Et ça va bien loin. Il déclare au roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Toutes choses sont nues et découvertes à celui à qui nous avons affaire. Il y a là, chez ce serviteur, une conscience de combien Dieu connaît chacune de ses créatures, qu'elles le connaissent ou qu'elles ne le connaissent pas. Le roi de Syrie s'inquiétait fort peu de l'Éternel. Pour autant, ce qu'il disait dans le plus intime de la vie de chacun pouvait être donné à connaître à Élisée. À entendre une chose pareille, on serait tenté de se dire, mais c'est une parole, est-ce que ce n'est pas là l'épée de l'esprit qui sonde et qui, comme il est dit, si on reprend l'expression de l'Épître aux Hébreux, vivante est la parole de Dieu et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et d'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. » Hébreux 4, 12 et 13. Non, le roi de Syrie n'a pas été touché par cette parole. Il ne s'est pas remis en question. Un petit peu dans son attitude, on peut retrouver ce qu'on a au début de l'Exode, la réponse du Pharaon à Moïse, chapitre 5 de l'Exode, verset 1er au milieu, verset 2. « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Qui est l'Éternel ? Ah oui. Élisée sait ce qui se dit dans ma chambre à coucher. Ben, il faut éliminer Élisée. Mais d'où Élisée le sait ? Alors, allez, voyez où il est, j'enverrai et je le prendrai. Alors, il a des informateurs, il sait où, il peut savoir où est Élisée. Élisée ne se cachait pas spécialement. Et il envoie des chevaux, des chars de grande force, de nuit pour environner la ville. Tout ce qu'il faut pour être sûr qu'Élisée ne lui échappe pas. Voilà la réaction devant une parole qui aurait dû toucher son cœur et sa conscience, qui aurait dû le faire réagir d'une manière analogue à Naaman. Puis alors au verset 15, maintenant on change de scène. On n'est plus à voir ce qui se passe chez les Syriens, mais on est justement dans une autre intimité, dans l'intimité d'Élisée. Élisée est là d'autant, avec son serviteur, son jeune homme, l'homme qui est celui qui le servait. Et puis voilà, il y a cette armée qui entoure la ville, et le jeune homme voit ça. Comment ferons-nous ? Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Et là, on touche à un autre registre de voir. Ce qu'on a considéré avant, c'est cette vision qui n'est pas la vision des yeux, qui est plus la vision de la connaissance que Dieu donne, qui est dans un sens une vision, mais qui est une vision plus d'un ordre symbolique, voir dans le sens de connaître, avoir la révélation des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Là, on a une autre vision, parce qu'on est on change de contexte. On rentre dans le contexte d'Israël, de ceux qui sont censés connaître l'Éternel, de ceux qui ont un passé avec l'Éternel. On se rappelle toujours Israël, le premier point fort du passé d'Israël, c'est la délivrance de l'Égypte. L'Éternel qui est venu faire sortir à main forte, à bras étendus, son peuple de l'Égypte. L'Éternel qui les a conduits dans le désert, l'Éternel qui les a fait entrer dans le pays. Voilà ce que tout Israël pouvait se rappeler en rapport avec la relation du peuple et puis sa relation individuelle avec Dieu. Et puis au-delà, il y avait les pères, Abraham en tout premier. Une connaissance de l'Éternel qui devrait faire voir des choses que l'homme des nations, qui était le roi de Syrie, ne pouvait pas voir. Quand le pharaon dit « Qui est l'Éternel ?», le pharaon n'a jamais eu de contact avec l'Éternel. Le roi de Syrie pouvait dire la même chose dans un sens « Qui est l'Éternel ?». Il est parlé ailleurs, il y a aussi dans cette même période, dans ces conflits, les lieux des batailles où il parle de « Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu des montagnes ou un Dieu des plaines ». C'est une vision du Dieu d'Israël comme leurs propres idoles. Maintenant, là, non. Élisée, homme de Dieu, prophète de l'Éternel, son jeune homme qui le sert, sait qui il sert. Mais ses yeux, les yeux de la foi, les yeux de la foi en l'Éternel qui conduit et est puissant pour garder son maître, ne sont pas ouverts. Hélas, mon Seigneur, que ferons-nous ? Alors, Élisée répond, Première parole, ne crains pas. Ne crains pas. La foi commence par se reposer sur Dieu. Elle ne s'agite pas, elle ne s'affole pas, elle ne s'inquiète pas. Elle ne sait pas ce qui va se passer, elle ne sait pas la suite du chemin. Mais la foi se repose sur Dieu et lui fait confiance pour attendre les solutions qu'il va donner, la manière dont il va délivrer. Ensuite, ceux qui sont avec nous sont en plus gros nombre que ceux qui sont avec eux. Devant eux, il y a une immense armée. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je pense en contraste, ce n'est pas vraiment le fil du sujet, mais je pense en contraste comment le Seigneur répond à Pierre. Si on relit peut-être juste vite ce verset. Matthieu 26, verset 52, non, verset 53. On peut déjà lire avant verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, vint, et avec lui une grande foule, avec des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Il y a ceux qui étaient contre le Seigneur, qui étaient nombreux, armés. Et le Seigneur renonce, ne veut pas. Ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas dans son chemin d'obéissance de demander 12 légions d'anges pour le protéger. On a un peu quelque chose de ça, cette armée que Élisée demande à l'Éternel de rendre visible aux yeux du jeune homme. Il nous est dit, la montagne était pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. C'est bien quelque chose d'équivalent à ces 12 légions d'anges. Élisée, homme, homme entièrement homme, a besoin de cette protection de Dieu. Et Dieu lui envoie cette protection parce que c'est son serviteur. Et c'est beau comment il demande, verset 17, Élisée. D'abord, il dit au jeune homme, « Ne crains pas », et le rassure. Et puis après, Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Il fallait que, à la fois la prière d'Élisée et l'action de Dieu pour que ce jeune homme puisse voir comment Dieu protégeait son serviteur. Alors les Syriens descendent vers Élisée, eux ne voient pas toute cette troupe. Elle est là. Elle est comme une espèce de si je peux prendre un exemple des choses du monde, le service d'ordre dans une manifestation qui veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement, qui est là, discret mais présent. Là, beaucoup plus, on a ces chevaux, ces chars de feu invisibles qui empêchent qu'on touche à Élisée. Mais là, ça ne suffit pas. Élisée pria l'Éternel et dit, « Je te dis, frappe cette nation de ses cités. » Et il les frappa de ses cités, selon la parole d'Élisée. Alors là, on a une double cécité. Ils sont déjà aveugles, en un sens, parce qu'ils viennent chercher Élisée, oubliant complètement de qui il est serviteur. Qui est son maître? L'Éternel. Ils sont à l'image de leur maître, le roi de Syrie, qui ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Alors on pourra dire ils obéissent à leur maître, d'accord. Mais au fond, là, ils sont devant, en train d'accomplir quelque chose où ils ne se rendent pas compte qu'ils vont contre quelque chose de plus fort qu'eux. Ils sont aveugles devant leur vrai adversaire, si on peut dire comme ça. Et puis, la demande d'Élisée frappe cette nation de cécité, rend-les complètement aveugles aux circonstances qui vont se dérouler. Ils ne reconnaissent pas Élisée. Ils croient ce qu'Élisée leur dit en disant « ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville ». Ils croient Élisée quand il leur dit « venez après moi, je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez ». Ils sont rendus aveugles sur la réalité qui les entoure. Et ils suivent Élisée jusqu'à Samarie, jusque dans Samarie. Remarquons au passage que dans cette réponse, dans ce qu'Élisée leur dit, il y a un peu un double sens. Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. Mais c'est quoi la ville? C'est quoi l'homme qu'ils cherchent? Ils cherchent Élisée à d'autres temps. Et au fond, Élisée leur dit non. Vous cherchez le roi de Samarie, le roi d'Israël à Samarie. Votre interlocuteur, l'interlocuteur du roi de Syrie, ce n'est pas moi, c'est le roi de Juda, c'est le roi d'Israël. La ville où vous devez aller, ce n'est pas Dothan, c'est Samarie. Élisée est vraiment là comme l'instrument de Dieu dans les affaires du peuple d'Israël, mais comme étranger aux choses de la terre. Celui qui gère les choses de la terre pour Israël, c'est le roi. Ce n'est pas Élisée. Alors, on a cette chose extraordinaire, cette armée qui suit sans qu'aucun ne prenne conscience de ce qui se passe, aveuglé par Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il soit entré à Samarie. Et là, nouvelle prière d'Élisée, ouvre leurs yeux. Et là, ils réalisent qu'ils sont dans la ville de leurs ennemis, entourés par leurs ennemis. Et alors, on a cette dernière étape. Nouveau, un autre point de vue. Le roi d'Israël et Élisée. Et le roi d'Israël qui montre là un caractère mélangé, un état très mélangé. Il n'a pas le discernement du tout de ce qu'il faut faire. Il y a une faiblesse évidente qui fait qu'il ne discerne absolument pas ce qui se passe là, l'enjeu, le chemin qui serait à faire. On peut dire plus, il n'a pas de relation directe avec l'Éternel. L'autre côté, c'est qu'il reconnaît Élisée. Et il passe par Élisée. Et il interroge Élisée. Et l'écoute d'Élisée. Un contraste quand même assez fort par rapport à ce qu'on lit dans le premier livre des rois, entre Achab et Élie, par exemple. Où là, Achab pouvait traiter Élie de mon ennemi. Alors, frapperai-je mon père? On a le sentiment qu'il y a une panique. L'ennemi qui est dans la ville, mais comme des moutons. Comme une troupe qui est perdue, mais qui est là dans la ville. Et qu'est-ce que répond Élisée? Tu ne frapperas pas ceux que tu aurais fait captifs avec ton épée et ton arc. Les frapperais-tu? Mets du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. La grâce, use de grâce envers eux. Ils sont venus comme des soldats faire la guerre, ils sont venus, Élisée ne le dit pas parce que ce n'est pas important, ils sont venus contre Élisée. Ils sont venus contre moi, mais ce n'est pas ça qui compte. Ils sont là entre tes mains. Use de grâce envers eux. Des prisonniers, ce sont des prisonniers, ce ne sont plus des combattants. Est-ce que tu les aurais tués? Il y en a qui l'ont fait. C'est des choses qu'on voit tristement dans la vie de David. Là, non. Mets du pain, de l'eau devant eux, qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. Il leur prépare un festin, ils mangent, ils boivent, ils les renvoient, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et la conclusion est simple. Les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël, au moins pour un temps. Quel effet cela a eu sur le roi, sur les Syriens ? Sur le roi, pas grand-chose. Sur les Syriens, Dieu le sait. Mais la conséquence en est un temps de paix pour Israël. Mais alors surtout, ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est cette variété d'occasions et cette variété de manières qu'il y a de voir ou de ne pas voir. Et on peut rapprocher ça d'Hébreux 11, où on a ce chapitre qui nous parle de la foi, où on a aussi ce côté de voir qui apparaît en particulier pour Abraham. Je pensais, mais ce n'est pas littéralement un verset, il y a ce cantique, c'est par la foi que voyant l'invisible. On a ça, par exemple, pour Abraham, Hébreux 11, au verset 13. « Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. » Ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'eux savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. N'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. On a là, au fond, tout un programme. Il y a des choses promises, des promesses de Dieu. Je crois que d'ailleurs la note nous le précise, verset 13. Les promesses, littéralement, les promesses de Dieu, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vues de loin. Il y a ces promesses de Dieu, des choses que nous attendons, des choses que la foi sait que nous aurons. C'est toute la différence qu'il y a entre espérance et espoir. Un espoir, c'est quelque chose que on espère que ça arrivera, mais on n'en est pas sûr du tout. On le souhaite fortement, mais on n'a aucune garantie. Et une espérance, c'est quelque chose qu'on sait qui arrivera, qu'on attend. La foi, elle espère dans le sens de l'espérance. Elle attend la réalisation des promesses que Dieu a faites. Et alors, justement, on a c'est la suite. N'ayant pas reçu, mais les ayant vus de loin. La foi voit de loin, comme la silhouette des choses qui se profilent. Et c'est ce mélange de certitude, comme c'est dit avant, l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas, au verset 11, et les choses pas encore reçues, mais vues de loin. On pourrait dire une contradiction, les choses qu'on ne voit pas, et pourtant elles ont été vues. Oui, on ne les voit pas comme des choses présentes, mais on les a vues comme l'objet, la forme des promesses que Dieu a faites et qui sont quelque chose de concret. Et la conséquence de ça, c'est une marche en avant. On ne s'arrête pas pour s'asseoir et attendre que les choses viennent tout seules. Non, ils étaient étrangers, forains sur la terre, et ils marchent. Ils ont vu les choses, ils ont salué, c'est-à-dire, ça fait curieux, ils ont salué. Ben oui, pour eux c'était une réalité dans leur vie et dans leur parole, dans leur pensée. Ces choses, nous allons vers elles. Nous les attendons, nous savons qu'elles vont arriver. Et en attendant, on marche en ne se laissant pas lier à des choses qui empêcheraient de saisir ces promesses. chercher une manière d'illustrer cela. Bon, ça viendra peut-être, j'ai pas d'illustration là. Et la suite de ce paragraphe, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ceux qui disent de telles choses, ceux qui marchent comme disant, comme professant qu'ils sont étrangers, forains sur la terre, qui ont, parce qu'ils ont vu quelque chose vers quoi ils marchent, ils montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Ces choses, ces promesses, on désire se les approprier, les faire siennes. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, la patrie, ils auraient eu du temps pour y retourner. Effectivement, Abraham, on le voit malheureusement aller en Égypte et en revenir ayant appris des leçons. Mais il aurait tout aussi bien pu retourner à Ur des Chaldéens ou à Charan. Non, Abraham n'est pas retourné en arrière. D'Égypte, il est revenu dans le pays et il a continué à arpenter ce pays entre Hébron, chaîne de Manré, les différents endroits où nous le voyons avec ses hôtels qu'il construit, attendant ce qu'il est dit là, verset 16, une patrie qui est une meilleure patrie, attendant quelque chose de meilleur que ce qui est là maintenant. Alors, quelle conscience ! Il est évident que l'auteur d'Épître aux Hébreux nous présente la foi d'Abraham, si je peux dire comme ça, comme Dieu l'a retenu. Est-ce qu'Abraham avait vraiment conscience lui-même, au début de sa vie, certainement pas, que cette patrie était céleste ? Mais vers la fin de sa vie, il a bien vu, sa descendance n'était pas encore le sable au bord de la mer ou les étoiles des cieux. Il avait Isaac, un fils. Isaac avait deux fils, Jacob, Ésaü. Voilà, c'est tout. Abraham a encore aperçu peut-être les enfants de Jacob, retour de Jacob, mais on est loin d'une descendance comme le sable au bord de la mer ou comme les étoiles des cieux. Mais la foi voyait cette descendance. Abraham, à ce moment-là, avait conscience que cette promesse de Dieu était une promesse pour un autre temps. Pour un autre temps terrestre, oui, mais un autre temps au-delà de la terre. Et la conclusion de ça, c'est que Dieu n'a pas honte de savoir d'être après leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Si Dieu a promis, c'est qu'il a déjà préparé ce qu'il a promis. Cette cité céleste existe en même temps que la promesse, avant la promesse, ou en même temps, c'est peu important, c'est plus à notre échelle de mesure, mais elle existe en même temps que la promesse. Et Dieu n'a pas honte d'eux, c'est curieux aussi, honte d'eux. Pourquoi aurait-il honte ? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a honte de quelqu'un ? C'est quelque chose qui nous échappe un petit peu là. Comment la foi, on le dit souvent, la foi honore Dieu, et Dieu honore la foi, c'est un peu une paraphrase de choses de la parole, mais c'est ce qu'on retrouve ici. Dieu voit la foi dans le cœur, et il reconnaît et répond à cette foi. On l'a un petit peu dans ce que l'Éternel dit à Abraham, justement, après le sacrifice d'Isaac, Genèse 22, à la fin du chapitre. Verset 15, l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois, il dit « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. » La foi d'Abraham, bon, l'objet de Genèse 22, c'est le paragraphe précédent dans Hébreux 11, qui nous est rappelé, mais qui nous est rappelé plutôt sous l'angle d'Abraham, de la foi d'Abraham. Là, ce que je viens de dire, c'est le regard de Dieu sur Abraham dans cette occasion-là. Parce que tu as cru, parce que tu as obéi. La promesse, je l'élargis. C'est plus juste le sable au bord de la mer, c'est aussi les étoiles des cieux, c'est les deux ensemble. C'est cette cité qui est céleste vers laquelle tu marches. C'est cette promesse que tu ne peux pas saisir maintenant, qui te dépasse quelque part, mais parce que tu as cru, elle est là devant toi. N'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Dieu leur a préparé une cité. En rapport avec ça, et par rapport aux promesses que nous avons, je voudrais juste terminer en lisant ce début de Jean 14. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. On peut le traduire aussi, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Et en Jean 17, verset 24, « Père, je veux quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Que le Seigneur nous ouvre les yeux, autant dans cette vie de tous les jours, dans les circonstances variées que nous pouvons connaître pour reconnaître son chemin, et qu'il nous conduise pour voir aussi ces choses invisibles par la foi, aussi bien ce qui est du registre de, si je peux dire, cette troupe qui protégeait Élisée et son jeune homme, la manière dont Dieu s'occupe de toutes les circonstances de notre vie sur la terre pendant le chemin, que pour ce qui est voir ces choses qui sont préparées, ces places préparées dans sa maison, que lui-même est allé préparer dans cette maison où il y a beaucoup de place et où à la fois le Seigneur il va préparer les choses pour nous avoir avec lui, et dans cette prière de Jean 17 demande que nous soyons avec lui, dans cet endroit, dans ce lieu, entre guillemets, je mets des guillemets à lieu, être avec lui, l'entourer, le voir, lui, comme il est, et nous rappeler, nous être remplis d'une autre manière de tout l'amour dont il nous a aimés.